n'arrête pas de dire que ses boss, c'est les auditeurs. Pourriez-vous y demander qu'il lise ses courriels puis qu'il fasse ses concours, s'il vous plaît? La direction vous remercie.
Marceau, le midi.
13h05, c'est moins 7 degrés sur Québec pour aujourd'hui. On a atteint le maximum. Pour ce soir, c'est nuageux. 2 cm annoncé. Des rafales aussi à 50 km/h. Des températures stables à près de moins 7 degrés. Demain mardi, de la neige entre 2 et 4 cm. En soirée, la neige ou de la pluie, minimum de 0. Mercredi, de la pluie, maximum de 9. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, on nous annonce beaucoup de pluie. Donc, il faudra faire... Si vous avez des abris tempo, on va enlever la neige un peu avant que la pluie arrive, parce que ça va être extrêmement lourd, les amis, pour ce qui est de la météo dans les prochaines heures.
Ça va être glissant aussi. Oui. Les crampons, là, c'est pas juste pour les personnes âgées.
Pascal, Hydro-Québec.
Oui, il y a quelque chose qui est venu à mes oreilles qui me fascine. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, nous autres, là, au commun des mortels. Tu sais, quand il y a une panne électrique, ces choses étant. On espère que ça n'arrive pas dans le temps des fêtes, comme on a vécu il y a 2 ans, puis qu'on perde absolument toute la nourriture qu'on avait préparée pour la visite. Cependant, ouais, quand ça arrive pour des commerces, comme un genre de garage où on prend des réservations d'avance puis que les journées sont pleines de réservations pour une clientèle, puis en même temps, on fait notre chiffre d'affaires avant le temps des fêtes. C'est particulier. Hydro-Québec a avisé, entre autres, un garage du secteur de Le Bourgneuf, OK, dans les derniers jours, qu'il y aura une coupure de courant de 9h à 14h. Pas une histoire d'une demi-heure. 9h à 14h pour soit mercredi ou vendredi. On n'est pas sûr. Mais... on demande de confirmer la journée du côté du garage parce qu'il faut déplacer les rendez-vous des clients. La réponse à ça, on ne sait pas la journée, mais vous serez avisé si les travaux sont annulés ou reportés. Okay. Au vendredi. Tu sais, c'est particulier, là. On s'entend, pour eux, ça représente une perte d'environ 7 000 pour une demi-journée d'annulation.
Ouais.
Et ça, c'est s'ils sont capables d'annuler aussi en temps et lieu puis prévenir les clients.
Mais c'est pas ce que je ferais. Si j'avais un garage comme ça, c'est une génératrice, ça peut-tu aider? On va te chercher une génératrice, tu remplis ça d'essence. Puis...
t'es-tu capable de faire rouler ton garage au complet là-dessus?
C'est très bonne question. Faudrait demander à des gens intelligents comme David Chabot de calculer tout ça. Là, notre expert en géopolitique.
Géopatinage.
Ouais, ça, c'était pendant.
Ouais, c'est ça.
On n'y reviendra pas. David, salut.
Hey, salut, ça va?
Très content de te voir. Et en fin de semaine, ça a brassé dans le secteur de la Syrie. Bachar al-Assad qui s'est fait tasser de là, puis s'est sauvé par avion et ses destinations Moscou. Donc, à Moscou, on a accueilli Bachar al-Assad. Mais là, qui dirige la Syrie actuellement?
Ben, c'est drôle parce que là, premièrement, c'était comme un peu trouver Carmen Sandiego pendant un certain moment, là, parce qu'on savait pas où s'en allait Assad.
Il n'y avait pas grand choix. Là. Il y avait la Corée du Nord puis la Russie.
Oui, oui, effectivement. Sauf qu'il y a bien des gens qui pensaient qu'il s'était fait clencher directement dans la capitale. T'sais. Puis là, finalement, whoop, il réapparaît à Moscou, ce qui est la chose la plus crédible. Là, évidemment.
Quand même assez fascinant qu'il ait réussi à traverser. Un peu moins fascinant et saugrenu qu'il soit rendu du côté de Vladimir Poutine. Mais le fait, effectivement, qu'il ne soit pas décédé, moi, ça me surprend. Ouais. Là, c'est phénoménal.
Mais ça, c'est stratégique. Hein, parce que, excusez-moi, j'étais un peu enrhumé, mais je vous rassure, à la maison, c'est pas dangereux à travers les ondes FM. mais toi, Marceau, on se touche pas.
Parce que moi...
ben écoute, je sais pas. Là, mais
pas de grippe, s'il te plaît, avant les fêtes.
Restons
C'est ce qu'il avait fait avec Kadhafi. Il avait retrouvé Kadhafi dans la ville. Il l'avait sorti d'un tunnel, puis il l'avait massacré.
Oui, puis tu sais, on se souvient de Saddam Hussein aussi. Là, que lui,
Saddam Hussein avait été pendu.
Ouais, c'est ça, mais il était caché dans un genre de demi-sous-sol.
Genre de shelter.
Ouais, pas chauffé, pas éclairé. Là,
ouais.
Puis ça, dans le fond, le pourquoi qu'ils l'ont pas clenché à Assad, selon moi, c'est que tu crées un martyr avec ça. Puis là, ben, tu prends un pays qui est complètement défait. Là, je parle de la Syrie. Là. Puis le boss en ce moment, apparemment, c'est Abu Mohammed al-Julani. C'est un gars que je connais pas personnellement, on se comprend. Mais ça semble être une espèce d'unificateur de tous les fronts rebelles, si tu veux, dans le pays. Puis
c'est
un
ancien d'Al-Qaïda.
Oui, notamment. Il était proche de Daesh, là, le ISIS, puis tout ça. Donc là... Il se positionne comme un genre de leader modéré. Là. Je fais des air quotes pour les gens à la maison parce que c'est pas tout le temps modéré ses positions. Sauf que tu vois qu'il veut former un vrai gouvernement ou en tout cas former un vrai leadership qui va être comme rassembleur puis qui va faire que le pays va arrêter. T'sais, il veut pas faire une Somalie, mettons, avec la Syrie. Bien que le pays, ça fait longtemps que ça va pas très bien. Là.
Les Assad sont là depuis fin des années 70. Le père qui était là pendant quelques décennies, qui avait élevé son premier fils pour être le futur dictateur de la Syrie. Mm-hmm. Puis finalement, tu avais Bachar al-Assad qui, lui, qui a fait sa médecine en Syrie, qui est allé pratiquer à Londres, qui s'est fait dire « faudrait bien que tu reviennes en Syrie parce que ton frère est mort dans un accident d'auto ». Fait qu'on lui a comme fait l'académie du prochain débile qui allait prendre place très rapidement.
Le petit dictateur 101, tu sais.
Ouais, puis ils ont changé pour être le président de la Syrie, tu n'avais pas le droit d'avoir moins de 40 ans. Puis comme Assad était très jeune, 34 de mémoire, là, ben on avait abaissé l'âge pour qu'il puisse finalement prendre le pouvoir. C'est une belle dictature.
Là. Écoute, je t'ai pas allé jusque-là dans ma lecture, mais honnêtement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois que c'était comme un mauvais dictateur. Puis c'est un peu ironique ce que je te dis là parce que, bon, il a pas été chanceux. Il y a eu le printemps arabe. Là, dans
2011
puis 2012. T'sais, ça a brassé pas mal. Puis là, ça a parti en guerre civile à partir de 2013. Puis c'est une guerre civile active depuis ce temps-là. Fait que là, en ce moment, il n'y avait plus de structure de pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent pourquoi le pays s'est effondré, ou en tout cas le gouvernement s'est effondré aussi rapidement que ça, parce que ça fait près de 2 semaines là, que ça recommençait à se battre pour vrai. Mais finalement, c'est parce que t'as plus d'armée, les soldats sont démotivés, ils sont pas payés, ça finit qu'il y en avait plus de structure, c'était sur papier, ouais. Mettons. C'était l'Allemagne de 1945 quand Hitler, dans son bunker, il disait on va attaquer là, puis il y avait personne.
Mais c'était 500 000 personnes qui avaient été, excuse-moi, Pascal, c'était 500 000 personnes qui avaient été tuées par Bachar al-Assad, puis il avait utilisé des produits chimiques contre son propre peuple.
Ouais. La fameuse ligne dans le sable de Obama. Puis finalement, ça n'a pas été... Tu te souviens de cette histoire?
Oui.
Là, tu sais, il a utilisé le chimique. Puis Obama avait dit comme 2 semaines avant, ça, c'est la ligne dans le sable. Finalement, il l'a fait, puis hop, c'est rien passé. Puis là, c'est un des moments où Vladimir Poutine a pris comme un genre de leadership international parce qu'il a envoyé un bateau spécialisé dans le désamorçage là, des produits chimiques au large de la Syrie. Puis là, finalement, il a pris le contrôle de la situation. Puis Obama a eu l'air un peu cocu là-dedans, tu sais, parce qu'il dit « Tu le feras pas », puis il l'a fait, puis rien fait. Bon.
Pascal?
C'est un peu fascinant aussi que ce genre de leader-là, parce qu'il en restait un, là, Bachar al-Assad, au sein de la Syrie, a demandé une guerre civile à son propre peuple pour ensuite fuir. Tu sais, une des questions qu'on se posait en début d'émission, c'est « Est-ce un geste lâche? » Par définition, moi, je répondrais oui, pour après fuir, puis qu'il n'y ait rien de plus qui se soit passé, mis à part un peuple déchiré, puis un peuple qui s'est meurtri là, entre lui, là.
Ouais, ben en fait, il a pas demandé la guerre civile, là, il se l'est fait un peu imposer, mais il a pas été capable de la mater de la bonne façon,
tu sais. Mais
parce
tu comprends
que...
dans le sens où c'est pas c'est pas un exercice qu'on a dit à son peuple de faire, mais par ses gestes, par son leadership, il y avait quand même quelque chose à gagner au sein de ces déchirures-là auprès de sa population.
Ben, c'est sûr que diviser pour mieux régner, tu sais. Puis les dictateurs du Moyen-Orient, ça a longtemps été un brand qui a bien fonctionné, parce qu'on parlait tantôt de... des autres du secteur, là, Saddam Hussein notamment, c'est un bon exemple. T'sais. Puis c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, l'utilisation, mettons, des armes chimiques en Irak contre les Kurdes, c'était n'importe quoi. Sauf que ça finit que tu te dis, ben, puis là, ça, c'est une question philosophique, en fait, puis je serais curieux de vous entendre là-dessus. C'est-tu mieux un dictateur qui garde le contrôle puis qui enclenche juste une minorité ou une guerre civile où la majorité se fait tuer ou. Tu comprends? C'est très. Excuse-moi, utilitariste comme point de vue, tu sais.
En Libye, en tuant la tête du serpent, on a créé d'autres serpents qui étaient aussi pires que le président libyen. Puis en Irak, ça a fait la même maudite affaire.
Plus,
les chefs de clan sont sortis puis ont fait pire que ce que Saddam Hussein faisait pour son propre pays.
Ouais, tu sais, il y a eu beaucoup de vengeance. Puis après ça, on a formé... Justement, l'ISIS s'est formé en Irak après, dans le fond, l'écroulement là, du parti Ba'ath. Fait que là, la question est tout le temps... est intéressante pareil parce que... Une vie, on va reprendre un slogan, là, une vie, c'est une vie de trop, là, mais en même temps, tu sais, est-ce que t'es mieux de laisser un dictateur en place qui contrôle la région où c'est stable ou au contraire, tu dis, on va encourager le peuple à se soulever, puis là, c'est tout le temps l'histoire de qui fournit les armes à qui, puis qui a le leadership là-dedans.
Parce que le futur président syrien, on ne sait pas comment il va interpréter le Coran. Là.
Non.
C'est-tu aussi pire que ce que Bachar al-Assad faisait ou encore l'autre qui va arriver, qui va être un extrémiste du Coran? Là, de ce que je comprends, c'est qu'il veut que les filles continuent d'aller à l'université, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, si on ne sait pas.
Oui, puis c'est un point intéressant, ça, parce que l'utilisation de la religion pour la gouvernance, là, ben, t'sais, dans cette région-là, jadis, naguère, là, à part l'Iran, c'était quand même, je veux pas dire laïque, là, parce que tout le temps des gouvernements religieux, mais la religion ne prenait pas tant de place que ça, par exemple en Irak, en Syrie, puis en Libye, tu sais, puis en Égypte.
Les filles étaient sur la plage en Afghanistan.
Ouais. Mm-hmm.
Il était en maillot, là, maillot 2 pièces. Là.
Ouais, oh ouais. Puis longtemps, ça a été comme ça. Là. Puis même en Iran, avant la révolte là, du Shah, toute la patente, là, C'était la réalité aussi au Moyen-Orient. Fait que, c'était des nations, des populations qui étaient quand même relativement libres et démocratiques. Pas démocratiques, c'est pas le bon mot, mais mettons, tu avais une vie relativement normale par rapport aux standards occidentaux. Puis à chaque fois qu'il y a un dictateur qui se fait renverser, bien finalement, les conditions de vie moyennes du Libyen moyen ou de l'Afghan moyen ont vraiment rapidement détérioré. T'sais. Puis là, bien, c'est un gros dilemme quand même pour l'Occident. Parce que si on regarde l'Afghanistan puis l'Irak, on est arrivé là pour faire du nation building. T'sais. On a dit, nous autres, notre modèle, notre brand, notre franchise, elle marche. Là, fait qu'on va implanter des démocraties partout. Puis finalement, bien, tu te rends compte que le peuple ne veut pas nécessairement ça ou ils ne savent pas exactement par quel bout de prendre ça. Fait que ça finit que... t'es pas capable, à part si tu gardes des centaines de milliers de soldats sur place, de mettre en place l'État à tes yeux, à toi, parce que c'est des gens qui réfléchissent différemment. C'est très tribal, puis c'est très...
Souvent, tu te demandes, tu sais, parce qu'avec nos yeux occidentaux, on se demande, on conclut que ça n'a pas de sens comment ça se passe dans le monde, à l'international, la manière dont ils gèrent leur peuple et tout. Mais pour eux, c'est une culture bien implantée, c'est une façon de vivre, ça a été imprégné dès leur enfance, c'est toujours ce qu'ils ont vécu. Fait que t'es après de te demander, bon, c'est qui a la meilleure façon de vivre? À nos yeux, avec les droits humains et autres, c'est clair, on n'a pas besoin de se poser 150 questions. À leurs yeux, c'est la leur.
Non, c'est ça, c'est des enfants qui ont été endoctrinés dans la religion, c'est des enfants qui ont été endoctrinés dans la haine de l'Occident, les impurs. Fait que d'essayer de, tu sais, t'enlèves la tête du serpent, mais les autres qui grandissent à 20 ans, 30 ans, ont encore eu l'éducation religieuse. Donc, c'est pas les Américains qui vont leur faire changer d'idée.
Oui, puis c'est pas juste religieux. C'est tout le temps la même affaire. Là, quand tu interviens et tu utilises la violence là, pour essayer de stabiliser les choses, ben, tu vas créer des victimes qui, elles-mêmes, vont faire un réseau dans leur famille, qui vont créer du ressentiment envers l'Occident.
T'sais. La guerre israélo-palestinienne est le meilleur exemple dans ce cas-ci.
C'est ça. C'est une roue qui arrête pas de tourner.
Là, David, Poutine qui prend Bachar al-Assad pour en faire un réfugié de guerre.
Puis ça, c'est pour des raisons humanitaires.
Humanitaires.
Oui, c'est tellement ironique.
Est-ce que. Je dis ça comme ça, c'est jamais arrivé. Mais mettons, ça se peut-tu qu'en Russie, ils tombent d'une galerie, puis on n'entend plus parler?
Il veut savoir s'ils peuvent se chicaner ou encore il peut avoir une élimination.
Ouais, ça fait défenestrer, là, parce que ça, c'est des accidents qui arrivent souvent en Russie. Hein. Tu tombes d'une fenêtre, là, c'est plate, mais regarde, les fenêtres sont moins stables là-bas, si tu veux, je te dis. Mais est-ce qu'il va... Je pense pas, parce que tu sais dans le fond, ça reste un réfugié de prestige à avoir dans ton pays. T'sais. Moi, je pense qu'il va le sortir de temps en temps, Assad. Il va être en protection puis tout, mais je pense que Poutine peut s'en servir parce que son but ouvert là, en ce moment de Vladimir Poutine, c'est de créer une espèce d'alliance de pays anti-occidentaux, anti-OTAN.
Et Bachar al-Assad a encore des alliés en termes de vision. Il y en a toujours eu, il y en aura encore. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être un nouveau partnership extraordinaire dont on voulait tous voir le jour.
Ouais, c'est quand même un gars qui pourrait être accusé de crime de guerre. Là.
Ah, assurément, mais ça, tu sais, je veux dire... Ça, c'est une autre affaire, la Cour pénale internationale, puis t'sais, toutes les conventions de Genève, finalement, ça devient optionnel. T'sais, ça finit que quand t'es dans le mauvais bord, t'as pas assez de puissance, mais là, tu te fais striker, là, t'sais, comme tout ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, oui. Mais quand t'es Vladimir Poutine, quand t'es même les États-Unis qui se font plomber ou Israël qui se fait accuser de génocide en ce moment, ben.
Puis pourrais-tu, mettons qu'il y a un nouveau gouvernement syrien qui se forme, il pourrait-tu avoir un échange entre la Syrie puis l'URSS? Les Russes?
Hey, les Beatles sont séparés en
Il pourrait-tu avoir un échange? C'est-à-dire, tu sais, est-ce que la Russie prend quelque chose de la Syrie versus la Syrie qui prend quelque chose de la Russie? Y a-tu un échange de pétrole?
Les ressources? En Syrie, il n'y a pas grand-chose. Là. Je disais là-dessus, justement, il y a un peu de pétrole, il y a des mines de potassium, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est des ressources assez limitées. Le pays était riche et fort parce qu'il était géostratégiquement bien situé. Puis il y avait des alliances qui aidaient, dans le fond, l'URSS. Justement, dans le temps, il était très proche de l'URSS. Là, maintenant...
Ça, c'est dans le temps que les Beatles étaient là.
Exact. Okay. Ça chantait Yesterday dans ce temps-là. Okay. On est tous en même place, ça va. Fait que finalement, tout ça pour dire que maintenant, là, le seul levier géostratégique intéressant pour la Syrie, c'est la proximité à la mer puis le fait que tu es entre l'Iran et Israël. C'est pas mal juste ça, finalement. Là. Fait que là, comment ça va se développer? Moi, je pense que Poutine veut vraiment s'impliquer dans cette région-là parce qu'il y a à la fois du prestige puis un levier géostratégique pour essayer de renverser la puissance américaine. Mais il y a beaucoup en ce moment de vacuum parce que les États-Unis n'assument pas vraiment leur leadership. Puis quand ils le font, c'est en disant à l'Ukraine, mettons, envoie des missiles loin, puis là, il fait juste comme envenimer le conflit. Mais jadis, naguère, là, t'sais, les États-Unis, quand ils disaient c'est A, ben c'était A, puis ça se calmait. T'sais. Là, finalement, il n'y a plus ce levier-là. Puis là, ça crée une espèce de monde multiparti ou multipolaire, là, où tout le monde fait à peu près n'importe quoi. Puis ça fait des crises politiques un peu partout aussi. T'sais.
Mais pourrait-il y avoir un trade entre la Russie puis la Syrie? Si jamais la Syrie donne à la Russie ce que la Russie voudrait, on pourrait-tu, je sais pas moi, se faire suicider Bachar al-Assad?
Peut-être, là, t'sais, je t'échange, mettons, 3 missiles contre une carte de Wayne Gretzky recrue, là, genre.
Mais on veut-tu vraiment
ça? Tu ferais ça?
Ben, là, je penserais, en tout cas.
On veut-tu vraiment ça? Ça va donner un certain pouvoir à Vladimir Poutine?
Ben
oui, oui, ben, de non, savoir qu'il est capable d'aller chercher certaines affaires contre une négociation, c'est ce que Vladimir Poutine souhaite depuis maintenant 2 ans facilement, puis souhaitait bien auparavant. Mais ces alliances-là qu'il a renforcées à travers le monde, ce n'est que son esprit de négociation et la recherche de son pouvoir. Il s'est auto-proclamé l'homme le plus beau au monde. Là. Oubliez pas, là, c'est pas une farce.
On fait régulièrement ça chaque matin.
À toi, ça, devant la glace?
Oui, oui.
D'accord.
Mais Pascal, mettons, là, c'est un bon parti, Vladimir. Là.
Ça va être correct, ça me dérange pas.
Non, mais on veut jaser. Il fait du judo, puis c'est un homme quand même bien en moyenne.
Tu aimerais que j'ai un grand chapeau de poil?
Quand il joue au hockey, il est capable de faire 15 buts avec des athlètes professionnels.
Imagine ses performances. Oui. En termes de tout ce que tu souhaites.
Ah, il va scorer.
Hein, j'ai hâte, là.
David Chabot.
Hey, merci.
C'était un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Yes.
Pascal, c'est le combat des tounes.
Oui.
On a une toune à vous faire jouer dans les prochaines secondes. C'est la toune de Green Day, Dilemma, qui est une des préférées sur les zones de boulevard. Puis j'ai l'autre que je vous présente à l'instant. C'est OK, but this is the last time de The Offspring. On vous fait jouer ça à l'instant. C'est l'ultime combat des tounes présenté par Chaloux chaque jour en semaine. 2 chansons différentes qui s'affrontent jusqu'à la première place. Pour le moment, ben on vous le dit, vous pouvez aller donner votre avis sur notre Instagram de Boulevard. Vous choisissez votre toune grâce à vous et à Chaloux. Ben, la compilation des votes couronnera la toune de l'année sur Boulevard. L'autre, c'est celle-là, Green Day Dilemma à l'instant.
L'ultime!